Vous avez déjà entendu parler du salaire à vie ?
Moi, ce que j'ai déjà entendu parler, c'est le revenu universel, mais pas celui dont il parle à la télé, mais c'est le pour lequel je milite depuis, ça fait 20 ans que ça existe, ça, déjà. Et d'un revenu de 2000 euros par mois, par personne, pour tout autre vivant, et qui est évolutif en fonction de ce qu'on apporte en fait à la société, de la valeur ajoutée que l'individu apporte. S'il n'y en a pas, il reste à 2000 euros, de quoi se nourrir, se loger, vivre décemment. Et s'il apporte des choses, son salaire augmente, ce qui lui permet aussi de négocier pour ce qu'on appelle les travaux pénibles, etc., et de renverser la dynamique du marché actuel. Hein, et ouais, ça me paraît très... Enfin, c'est des choses pour lesquelles je milite depuis longtemps. Hein.
Vous connaissez la personne qui a théorisé ce que vous dites ?
Non.
Vous l'avez en face de vous ?
Ah bah, j'en suis...
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Bernard Friot, sociologue, économiste et auteur d'Émanciper le travail, livre paru aux éditions La Dispute. Bernard Friot est l'initiateur de Réseau Salariat. Il a théorisé le salaire à vie.
Grosso modo, c'est ça, dans les grandes lignes.
C'est s'inspirer de la fonction publique ou de la retraite calculée en fonction du salaire de référence, c'est-à-dire sortir le salaire du marché du travail, sortir le salaire des aléas de l'emploi, en faire un attribut de la personne, parce que c'est nous qui produisons, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas reconnu par un droit politique au salaire, mais au salaire, pas au revenu. C'est-à-dire, au salaire, c'est-à-dire quelque chose qui reconnaît que c'est nous qui produisons, qui nous sort du statut d'être de besoin, qui avons droit du pouvoir d'achat. Ça, c'est un peu le mépris que la classe dirigeante a pour nous. Voilà, on va leur jeter des sous en termes de pouvoir d'achat. Là, il s'agit de conquérir le pouvoir tout court, enfin, et donc la propriété des entreprises. Et pour ça, on a quand même déjà un déjà-là important qui a été inventé par la classe ouvrière. On a la fonction publique où, comme vous le dites, on démarre à un certain échelon, puis ensuite, en fonction d'épreuves de qualification, ben, on progresse ou on ne progresse pas, ça dépend des épreuves qu'on passe. Et on pourrait imaginer un salaire qui va... Alors vous démarrez à 2000, je ne sais pas si on peut tenir 2000, mais enfin, moi j'avais imaginé un salaire qui démarre à 1500, qui est la revendication pour le moment, 1500 euros net, c'est la revendication syndicale à peu près, mais qui n'aille pas au-delà de 6000, enfin qui soit entre 2 à 4, avec 4 niveaux de qualification, des épreuves qu'on passe. Mais si le salaire à vie qui nous sort des aléas du marché du travail, sur lesquels on n'a aucun pouvoir, enfin c'est pas nous qui décidons de l'emploi, s'il ne s'accompagne pas d'un changement du régime de propriété, si nous ne venons pas propriétaires des boîtes, ça ne marchera pas. Il faut aussi qu'on s'attaque à la propriété capitaliste. C'est indispensable, ça. Hein.
Bah, au système capitaliste dans ses fondements, de toute façon. Parce que fondamentalement, l'économie de marché compte en germe sa propre perte, sa propre destruction. Et la notion de valeur par le travail, hein, c'est quelque chose de récent. C'est au 19e siècle que c'est apparu. La révolution industrielle, nous l'a vendue pour libérer l'homme du travail. Donc il y a une contradiction à la fois à nous culpabiliser de ne pas travailler dans un marché où le plein emploi n'est pas assuré et où il est en train de décliner encore plus. Et en même temps, sur les limites de la planète, quoi. On n'a jamais produit autant de richesses. En même temps, on vit à crédit, puisqu'on consomme début août, on a consommé tout ce que pouvait produire la planète dans l'année. Donc il y a un paradigme là qui est complètement aberrant. Et on arrive à un moment où je crois que les 80% les plus riches au monde possèdent autant que la moitié de la population la plus pauvre. 3,5 milliards de personnes, ce qui est complètement... Enfin, on marche sur la tête, quoi.
C'est de la folie, oui. Avec un régime capitaliste qui produit pour la valeur pour l'actionnaire, qui se fout éperdument de la valeur d'usage de ce qui est produit, d'où les effets écologiques désastreux. Mais si on veut justement retrouver de la raison en matière de production, il faut que ce soit nous qui décidions. Enfin, et donc, mais oui, il faut que ce soit nous qui soyons propriétaires. Donc, il faut qu'on maîtrise l'investissement. Mais ça, on l'a fait aussi. Par exemple, on produit la santé... dans un dispositif qui globalement n'est pas capitaliste, sauf le médicament, hélas. Hein, ça, il faut qu'on sorte le médicament, décrire aussi tout ça. Mais le fait qu'on ait produit de la santé, d'une part avec du personnel qui est en salaire à vie, hein, les fonctionnaires hospitaliers ou les libéraux, les soignants libéraux, ils ont un salaire à vie, hein, globalement. Qu'on produise dans des hôpitaux qui ne mettent pas en valeur de capital, qu'on ait financé l'investissement hospitalier sans faire appel au marché des capitaux par une hausse du taux de cotisation maladie, qui a permis à l'assurance maladie de subventionner la création des CHU. Les CHU des années 60, ça a été subventionné, on n'a pas fait appel au marché des capitaux. Hein. Donc on s'est libéré du chantage des prêteurs capitalistes, on s'est libéré du chantage à l'emploi. On peut le faire pour tout, hein. De même, il y a un déjà là très important et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Dans une période où on est quand même collectivement un peu morose, un peu inquiet, avec des soucis pour l'avenir de la démocratie, etc., je crois que c'est très important qu'on soit tous porteurs de ce projet collectif de maîtrise du travail par les travailleurs eux-mêmes, à partir de ce qu'on a déjà construit, quoi, de ce que la classe ouvrière a déjà été capable de faire. Quoi.
Vous n'êtes pas fonctionnaire ?
Si, je suis enseignant.
Moi, je suis à la FSU. Souvent, notre façon de défendre le service public, c'est de dire, de s'adresser à des usagers en disant attention, le service public est en danger, etc. Ce qui n'est pas faux, hein, bien sûr. Hein. Mais je pense qu'on serait beaucoup plus efficace si on disait, il se trouve que historiquement, on a un salaire à vie. Plutôt que s'adresser à des usagers, s'adresser à des travailleurs. Ceux à qui s'adresse, c'est des travailleurs, les parents d'élèves et tout ça, c'est des travailleurs. Leur dire, mais vous avez droit, vous aussi, au salaire à vie. Et donc, travailler à la généralisation du salaire à vie, et c'est ça qui est important.
En fait, c'est qu'en 1973, le PDG d'Exxon et le PDG d'American Express se sont rencontrés et ont émis l'idée en fait, d'ouvrir les services publics, hein, toutes les activités humaines à la concurrence et de faire un marché. Ça a pris effet en 1994 avec les accords de Marrakech, la création de l'OMC qui a mis en place en fait, déjà les chantiers à ce moment-là de la privatisation de tous les services publics. Et depuis, on nous bassine sur le déficit du service public, alors qu'il n'y a pas de déficit, c'est un déficit organisé. On est dans une politique de privatisation des bénéfices et de mutualisation des pertes. C'est une escroquerie monumentale. Et c'est contre ça qu'il faut se battre et revendiquer.
Se battre pour, hein, se battre pour, parce que la lutte contre, ça ne suffit pas, disons. Hein. Il faut être porteur d'un projet alternatif. Et je pense que, aussi bien en matière d'éducation que de santé, on a déjà initié un projet alternatif. On n'a pas besoin d'employeurs, ni de prêteurs, ni de capitalistes pour travailler. Et on travaille plutôt mieux, même quand on est débarrassé de tous ces parasites. Alors pourquoi pas pour toutes les activités humaines, sans exception.
Bien sûr. Je crois que fondamentalement, la notion de propriété, c'était Proudhon qui disait que le premier homme qui a mis un enclos autour d'un terrain a dit « ceci est à moi le premier voleur de l'histoire de l'humanité ». Mais fondamentalement, je pense que c'est la sédentarisation qui est une désacralisation du sol, de la terre, donc de la propriété en soi n'existe pas, ça ne veut rien dire. J'ai vécu en Guyane pendant 11 ans, donc il y a beaucoup de populations amérindiennes et bushlinguées. La propriété, elle est collective. Il n'y a pas de propriété. La seule propriété individuelle, c'est les objets qu'on a trouvés, qu'on s'est fabriqués.
Voilà,
d'usage.
C'est
exactement.
La propriété d'usage. Mais c'est ça qu'il faut généraliser, ouais. La propriété d'usage.
Tout à fait, oui. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Et je pense qu'on va arriver à ça. Fondamentalement, on n'a jamais été aussi près de la situation décrite par Marx. Le système est en train d'imploser. Il y a eu la crise de 2008 qui a été redressée avec l'argent public. Mais à l'heure actuelle, la prochaine qui se profile, il n'y aura plus cette réserve-là pour la combler.
Donc. En 2007, on avait aussi effectivement l'occasion de rendre... C'était le collapse des banques. On avait l'occasion de s'en débarrasser. On ne l'a pas fait parce qu'il y a eu la trouille. Donc on a sauvé nos tortionnaires. Ce n'est pas sûr qu'il y aura une majorité pour les laisser mourir la prochaine fois. Parce que ça suppose encore une fois, pas seulement qu'on soit contre, mais qu'on soit pour l'alternative, c'est ça. Comme ça, beaucoup trop pensent que les travailleurs ne sont pas capables de diriger eux-mêmes l'économie, qu'ils ne peuvent pas être propriétaires des entreprises. Il y a encore toute une intériorisation de la soumission qui est encore forte. Hein. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Quoi, hein. Trouver une dignité collective.
Il y a plein de mouvements alternatifs, de solutions alternatives qui se mettent en place, dont on ne parle très peu en fait, et qui présagent
une
transformation fondamentale de la société qui est en œuvre. Là.
Oui, absolument. Je suis content que les fonctionnaires assument cette situation et finalement envisagent positivement le fait de généraliser à tous le salaire à vie, qui est leur situation à eux. Donc ça, moi, je trouve que c'est très, très positif. Et également, notre dernier entretien là, montre combien il y a tout un travail souterrain, de fait. Notre interlocuteur a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de médiatisation de tout ça. Ben, bien sûr, ça se comprend. Mais il y a tout un travail souterrain de construction d'alternatives qui, moi aussi, me rend tout à fait optimiste.
Je vais revenir sur cette idée aussi de l'importance de la responsabilisation des personnes.
Ah oui, 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 oui. Une éducation à la co-responsabilité. On a une école. Là, je vous renvoie aux travaux de Jean-Pierre Terraille et de son groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, le GRDS. Il y a un site d'ailleurs, GRDS, vous allez trouver si vous faites sur le site. Jean-Pierre Terraille, TE2RAIL. C'est un groupe de chercheurs qui travaille sur une école dont on supprime les notes et les filières et qui est vouée non pas à former les gens à la compétition sur le marché du travail, ce qui fait que le rapport au savoir devient très très mortifère, très instrumenté, hein, mais sur l'éducation à la co-responsabilité. Mais ça va s'imposer si nous voulons être nous poser comme les seuls responsables de la production, puisque c'est nous qui produisons, il n'y a pas besoin des parasites capitalistes pour le faire. Ça suppose que l'école éduque à la co-responsabilité. Ça doit être un changement, mais radical, des finalités scolaires.
Vous êtes d'accord que si on a le choix, la liberté de choisir son activité, puisqu'on n'a plus la pression, oui, mais il y a un certain nombre de tâches difficiles, pénibles, qui auront du mal à être effectuées, parce que je ne vois pas ce qui motiverait.
Oui, mais comme le disait un de nos interlocuteurs, la hiérarchie des salaires sert à ça aussi. Hein, c'est-à-dire que ceux qui consacreront une partie de leur existence à des tâches pénibles, par exemple le travail de nuit à l'hôpital, des choses comme ça, ou dans des industries de process en chimie et autres, on ne peut pas arrêter le processus, ben, ceux-là monteront plus vite en qualification. Ils progresseront en salaire plus rapidement que les autres. Donc c'est tout à fait gérable, cette affaire. Il n'y a pas besoin de la trouille de perdre son emploi pour assumer des tâches qui peuvent être passionnantes au demeurant. Un soignant de nuit, la tâche est passionnante, mais pénible. Et comment dire, le fouet du marché du travail n'est pas la bonne solution pour pousser les personnes aux travaux pénibles.
Mais quel sens ça a, une fois qu'on a son équilibre de vie, d'avoir un plus fort salaire ?
Ah ben je suis d'accord que si
s'il y a
une sécurité sociale du logement qui rend partiellement gratuit le logement, si on augmente la sphère de la gratuité, si par ailleurs on libère les prix de production de tout le poids des coûts du capital, hein, les Américains produisent la santé à 50% plus cher que nous. C'est 18% du PIB, alors que chez nous, c'est 12%. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout le poids du capital. C'est une production capitaliste de santé aux USA. Nous avons débarrassé la santé, sauf le médicament, de la production capitaliste, sa logique capitaliste, et on produit pour beaucoup moins cher. Donc, bien sûr qu'il n'y aura pas besoin d'autant de monnaie si la gratuité augmente, évidemment.
Donc, personne ne pourra se motiver, même avec un plus fort salaire, à effectuer des tâches pénibles.
Mais encore une fois, dire qu'on va augmenter la sphère de la gratuité ne veut pas du tout dire que l'on va supprimer la monnaie. Je suis tout à fait, au contraire, moi, favorable à une allocation marchande des ressources dans tout un tas de domaines où le marché est tout à fait efficace. Si on supprime le marché et la monnaie, il y a un risque de contingentement. Donc chacun va avoir droit à quoi ? À une brouette dans sa vie, à trois pantalons, je ne sais pas quoi par an. Enfin, l'allocation marchande des biens et services est tout à fait efficace. Dès lors que, attention, nous ne produisons pas des marchandises capitalistes, c'est-à-dire des marchandises qui mettent en valeur du capital. La marchandise capitaliste, ça donne Das Auto, ça donne la triche sur le diesel. La marchandise capitaliste, ça donne les biens à obsolescence programmée. La marchandise capitaliste, ça donne des grands projets inutiles et un gâchis invraisemblable, je ne sais pas combien, le tiers de ce que nous produisons est jeté en matière agricole dans l'agro-business, bon, indépendamment du sort qu'on donne aux animaux et tout ça. Donc, dès lors qu'on libère le marché de la logique capitaliste et qu'on est dans des logiques d'échange marchand comme, je ne sais pas, les AMAP, par exemple, moi, je pense que le marché reste une bonne allocation des ressources et qu'il faut de la monnaie. Cela dit, je suis pour l'extension de la gratuité au logement, à l'accès à la justice, par exemple. L'accès à la justice devrait être gratuit, à part une sécurité sociale judiciaire, etc. On peut étendre la sécurité sociale, bien sûr, à d'autres objets que la santé. Il faut l'étendre au logement en particulier.
Vous maintenez la notion de travail, ce qu'on pourrait simplement raisonner en termes d'activité.
Oui, mais la distinction entre travail et activité est absolument centrale. L'activité, c'est ce que nous faisons en ce moment, c'est ce que nous faisons en permanence.
Et sauf que je suis en train de travailler.
Nous accompagnons dans la rue Bernard Friot, auteur d'Émanciper le travail, livre paru aux éditions La Dispute.
C'est vrai, je travaille là.
Oui, mais moi aussi, parce que je suis payé. figurez-vous.
Vous êtes payé là en ce moment ?
Oui, même très largement. Oui, j'ai une retraite de prof d'université. C'est pas mal.
Bonjour, excusez-moi.
En ce moment, oui, je travaille, oui, bien sûr. Mais justement, c'est ça, hein, la différence. Tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on appelle travail ? Dans le capitalisme, on appelle travail la mise en valeur de capital. Ne travaille que ceux qui mettent en valeur du capital. Vous qui êtes sur une radio libre, vous êtes un amateur qui ne travaillez pas vraiment, vous ne mettez pas en valeur de capital. Moi qui suis fonctionnaire, je dépense. Les dépenses publiques, attention, non seulement je ne produis pas, mais je dépense. Ça, c'est la définition capitaliste du travail. Même reconnu par un salaire, les travailleurs indépendants ou le monde associatif n'existe qu'à la marge et toléré. Le capital ne reconnaît vraiment comme travail que celui qui met en valeur du capital, c'est tout. Le reste est soit désigné comme dépense, alors ce n'est pas votre cas, c'est le mien, soit domestiqué le plus vite possible, prenant les boulangers, un boulanger, c'est un travailleur faussement indépendant. Hein. C'est un maillon de la chaîne qui met en valeur le capital des minotiers, puisque c'est les minotiers qui tiennent globalement la chaîne du pain. Bon. Prenons un commerçant en vêtements, il est franchisé, c'est un maillon de la chaîne de groupes financiers qui, sur l'ensemble de la planète, exploitent le travail, y compris le travail indépendant, à propos des vêtements. Le fait de libérer le travail de sa définition capitaliste, pour dire qu'un retraité travaille, un parent travaille, ça c'est tout l'enjeu du combat ouvrier. C'est de sortir le salaire, qui est reconnaissance du travail, de l'emploi capitaliste.
Merci à Bernard Friot, auteur d'Émanciper le travail, livre paru aux éditions La Dispute, et merci à
Pablo
pour leur libre participation à ce reportage. Pour compléter votre information, connectez-vous au site de Réseau Salariat.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue ?
Ah ben c'est super, là franchement j'ai jamais pratiqué et je suis extrêmement content. En plus il fait beau, ce qui est quand même fort agréable. Mais je pratique très peu la rencontre comme ça, il faut du culot pour le faire. Franchement, bien hein, que vous lanciez comme ça. Je me suis lancé dans la conférence gesticulée sous la férule de Franck Lepage. Et cet été, on a fait une conférence gesticulée comme ça, ou terrasse de café. J'avais un peu la trouille, mais ça s'est extrêmement bien passé. C'est vrai que ça vaut le coup aussi de saisir la parole de personnes qui ne sont pas venues là pour ça, qu'on prend comme ça un peu au dépourvu. On en tire des choses qui peuvent être très intéressantes.